Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Cour d'honneur, saison 2, épisode 5, nous revoilà. Une émission de la bande Radio Sorbonne, diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi. Ici, pas de TD, rien que des DM. Oui, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. RSU est là pour toi, qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver des potes, toi qui galère à trouver un bar, toi qui galère aussi à trouver une meuf. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et tous les lieux où tu pourras te chauffer gratis cet hiver sans dépenser un rein dans le chauffage de ta chambre de bonne. Ensemble, pendant une heure, on rejoue une fois par mois les meilleurs programmes de RSU, la radio étudiante de la plus vieille fac de France, sur la première radio étudiante de la capitale. Et pendant une heure, on vous promet de la culture.
Bonsoir. Que trépasse si je faiblis.
Mais aussi des rumeurs.
Pardon, mais vos complications ne sont pas mon problème.
Du love pour les plus chanceux.
Mais pourquoi ces sales types sont-ils toujours les seuls à être réellement séduisants?
Et bien sûr du style avant tout.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Voici nos promesses avec une équipe bien déter pour vous servir. Nous avons avec nous Pauline. Bonsoir Pauline.
Salut Thomas, aujourd'hui on va parler de l'Observatoire de la Sorbonne.
Excellent, j'ai toujours rêvé d'y monter. À côté de toi, il se trouve Rosalia. Bonsoir Rosalia.
Salut Thomas, aujourd'hui je vais vous faire la revue de presse féministe.
On continue le tour de table. Clara, à ta gauche, ta droite, est avec
Bonsoir,
nous. Bonsoir
Thomas.
Clara.
Bonsoir. Alors ce soir, je vais interviewer deux professeurs de la Sorbonne, Frédéric Billet et Stéphane Jetto.
Nos deux invités. Et puis, il n'est pas invité, mais il est là chaque fois. Bonsoir Abel.
Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, on va répondre à la question qui déchire Paris. La rive droite ou la rive gauche, et les étudiants nous donneront leur avis.
Un vrai débat qui s'installera autour de notre plateau. Et pour terminer, Emma nous a rejoint. Bonsoir Emma.
Salut Thomas. Moi, je vais vous faire mon top 2 des albums de 2022.
Excellent, on a hâte d'entendre. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fâchée.
Carte blanche.
Allez, prenons quelques minutes pour célébrer 2023 et je vous fais... Les 10 conseils de Tom Tom pour bien débuter l'année. Allez, numéro 10. Tout d'abord, pensez à faire votre lit. Oui, cette petite action vous donnera une sensation de fierté et d'accomplissement. Et petit à petit, vous verrez, eh bien, vous appliquerez à d'autres choses ces petites attentions qui sont finalement tout autant vertueuses. Lavez-vous les cheveux. C'est mon deuxième, mon neuvième conseil. Et oui, ça fait des années qu'on nous dit qu'on shampoigne trop nos cheveux. Mais en fait, eh bien, comme beaucoup d'autres choses, les spécialistes font marche arrière. Les dermatologistes nous rappellent que notre scalp est fait de peau et que comme notre visage, eh bien, il faut la laver régulièrement. Conseil numéro 8, stocker des préservatifs parce qu'on ne sait jamais... Quand le monde pourrait s'effondrer. Et oui, je vous apprends que les survivalistes adorent les préservatifs. Ils sont légers, compacts, peuvent servir de bidon, de facilitateur inflammable, d'élastique, de lance-pierre, de bouchon ou pour se signaler de loin. Voilà, vous n'aurez jamais pu imaginer qu'un simple préservatif ait autant de fonctionnalités. D'ailleurs, au passage, et ça c'est mon septième conseil, faites-le davantage. Oui, le sexe est bon pour les êtres humains et très bon aussi pour leurs relations sociales. Vous verrez, ça vous détendra. Faites plus l'amour en 2023, ça vous fera du bien. Conseil numéro 6, demandez aux gens de vous parler d'eux. Dans la vraie vie, souvent, la meilleure façon de briser la glace, eh bien, c'est de dire à quelqu'un, parlez-moi de vous. Et vous verrez qu'en écoutant les gens vous raconter leurs histoires, ça vous fera du bien et spontanément, peut-être, les gens se confieront davantage à vous. Conseil numéro 5. Cacher ces maudits smartphones. On le sait tous, les écrans ont un effet néfaste à tous les moments de la journée. La nuit, la journée, le soir, dans vos discussions, dans vos conversations, ça vous coupe constamment de la réalité. Sachez d'ailleurs que même dans la Silicon Valley, on réapprend aux enfants à redécouvrir les jeux de cartes, les planches à roulettes et les espaces extérieurs. Peut-être qu'on devrait en faire de même. Conseil numéro 4. Soyez attentifs aux gourous autoproclamés du bien-être. Ceux qui vous vendent des élixirs à base de charbon, des compléments alimentaires et autres cours d'introspection, non. Concentrez-vous sur des méthodes, si jamais ça va pas bien dans votre vie, concentrez-vous sur des méthodes qui sont éprouvées. Dormir, faire un peu d'exercice et user de toute la raison dont votre esprit est capable pour faire davantage de science. Conseil numéro 2. Acceptez vos tendances nocturnes. Si jamais vous êtes insomniaque, si vous avez du mal à vous endormir la nuit, eh bien, n'hésitez pas à réviser en pleine nuit, à regarder des films, à accepter le fait que, eh bien, vous ne dormez pas. Cessez de vous forcer à dormir, ça ne marchera pas. Peut-être aussi, trouvez-vous, pour ceux qui commencent déjà à bosser, un travail qui sera flexible sur les heures de travail. Oui, si vous êtes un oiseau de nuit, eh bien, rendez-vous au bureau pendant vos insomnies. Ce ne sera que plus calme pour avancer sur vos dossiers. Au contraire, si vous êtes un couche-tard, eh bien, allez-y. Des récentes études montrent d'ailleurs qu'on est plus entreprenant et qu'on prend davantage de risques la nuit. Et puis enfin, mon dernier conseil, habillez-vous pour le plaisir tous les jours. C'est le conseil inusable de Michelle Obama, herself. Laissez vos vêtements parler à votre place parfois. Et n'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Pendant l'enregistrement de la dernière émission, en décembre, l'équipe de Cours d'honneur s'est lancée dans un débat passionné. Rive gauche ou rive droite? Alors, laquelle est la meilleure, Abel?
La gauche, historiquement plus tranquille et nouvellement bourgeoise, ou la droite, au cœur du tumulte parisien, hébergeant les quartiers populaires, mais aussi, ne l'oublions pas, le Triangle d'Or et les lieux touristiques de la capitale. En tout cas, cette semaine, nous, on est allé demander aux étudiants de trancher, et surtout pour savoir, quand on est étudiant, laquelle on préfère fréquenter.
Alors moi je suis dans le 14ème, je suis rive gauche.
Donc rive gauche.
Mais on bouge dans le 18, donc on bouge rive droite. Dans la rive gauche, surtout dans le 14ème, c'est un dortoir.
Bon, la rive gauche est plus intellectuelle que la rive droite, même si évidemment la rive droite est plus active.
Bon là, je serais pas aussi tranché sur l'opposition rive droite, rive gauche. Après, je pense que ça se joue plus en termes d'arrondissement que de rive droite, rive gauche. Après, bien sûr, il y a des tendances et la rive droite, oui, j'ai plus tendance à aller sortir rive droite, et notamment dans le 11ème, le 18ème.
Ah oui, team rive droite. Pourquoi j'aime le 20ème? Parce qu'il y a une belle dynamique associative, il y a une belle mixité sociale, parce qu'on arrive aussi à avoir des prix un peu plus abordables aussi au niveau des courses, au niveau de la vie culturelle. Par exemple, il y a beaucoup de prix étudiants pour aller regarder une petite pièce de théâtre ou aller au cinéma. Et alors, avantages et inconvénients. Quand j'habitais rive gauche, j'habitais dans le 5ème et c'est cher quoi. Alors que maintenant que j'habite rive droite dans le 11ème, quasi 20ème, il y a beaucoup plus de solidarité, je trouve. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point majeur.
D'un point de vue esthétique, on va dire team rive gauche, parce que la rive gauche est sympa. Il y a le 5ème, il y a les quais, il y a vers ici, vers la Sorbonne, c'est beau et tout. Mais après, d'un point de vue politique, je me dis rive droite, c'est quand même pas mal, hein. Il y a le quartier populaire et tout, ça bouge, il y a plein de trucs qui se passent, et voilà. Puis il n'y a pas tous les bourgeois, c'est pas trop mal aussi.
Alors, esthétisme, bourgeoisie, prix, mes chers camarades, qu'en pensez-vous?
Clara?
Alors, pour ma part, j'adore la rive droite, puisque c'est là où se trouvent les quartiers étudiants, comme le quartier latin. Mais le gros problème, c'est que c'est pas accessible. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans un quartier étudiant qui n'est pas accessible aux étudiants.
Financièrement parlant.
Oui, voilà. Et donc, au niveau des meilleurs bars pour les étudiants, je dirais que c'est le 18e et le 11e, Oberkampf surtout.
Merci. Et pour nos chers éditeurs, la rive droite, c'est donc la rive nord. Donc Clara parle effectivement de la rive gauche. Voulez-vous en rajouter?
Moi, franchement, pour bosser, rive gauche, parce qu'il y a les meilleurs BU et les cafés de coworking les plus cool et les moins chers. Mais par contre, pour sortir, rive droite, clairement.
Oui, Emma.
Moi, je dirais plus rive droite, évidemment, parce que j'y habite et je trouve que la rive gauche, c'est un peu un mensonge. Et du coup, la rive droite est beaucoup plus honnête et c'est pour ça que je la préfère.
Pourquoi c'est un mensonge ?
Je sais pas, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un peu une image de la rive. Enfin, je trouve que l'image de Paris se retrouve surtout dans ce qui est dans la rive gauche. Et c'est un peu un mensonge finalement. On voit tous les touristes, enfin, moi, tous les touristes que je croise à côté de Notre-Dame et tout. Enfin, je vais pas dire que je me moque un peu, mais quand même, enfin, je trouve que c'est un peu l'image.
C'est le Paris fantasmé.
Ouais, voilà. Et du coup, je trouve que la rive droite est plus honnête.
Je connais pas assez Paris parce que je suis trop banlieusarde, malheureusement. Mais je dirais que je suis, si Notre-Dame et tout, c'est la rive gauche. Voilà.
Alors Notre-Dame, du coup, c'est sur une île entre les deux.
Ouais. Au milieu.
Pour résumer,
là, on est rive gauche.
Géographiquement parlant, en fait, on se base à partir de la source de la Seine, donc, et puis on suit le courant. Et donc, en fonction du courant, eh bien, la gauche, du coup, à Paris, c'est au sud, et la droite, c'est au nord.
D'accord. Bah, du coup, moi, je travaille au nord, à Malesherbes, enfin, au rive droite. Enfin, moi, j'aime bien les deux. Tant que, enfin, de toute façon, Paris, c'est pas Emily in Paris. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Et du coup, elle vit où, Emily in Paris ? Moi, j'ai pas vu la.
Elle vit vers Saint-Lazare, vers Place de l'Europe, je crois.
Ah, et donc, les Américains, eux, ils ont dit, voilà, c'est rive droite, Paris.
Oui, mais sauf que, bon. Mais ça n'y ressemble pas.
Après, ah oui, c'est pas dans le
5e. Ah, mais je crois qu'elle a déménagé entre des. Je ne suis pas Emily in Paris.
Non, putain, elle a pas déménagé.
Je ne regarde pas. Ah,
bon. Moi, je suis, elle a pas déménagé. Par contre, je sais pas où elle habite. Moi aussi, je suis, mais en tout cas, ces trajets ne sont pas du tout cohérents. Je veux dire, la voiture, elle passe par tous les endroits. Je veux dire,
les endroits piétons.
C'est ça.
Puis, les endroits pour les Vélib.
Elle prend jamais le métro.
Ouais, non, elle se déplace qu'en Uber.
Et toi, Abel, du coup, rive droite, rive gauche ?
Moi, j'habite dans le 20e. Comme la plupart de mes camarades et des étudiants qu'on a interviewés, je préfère la rive droite. Il y a plus de choses à faire. Pour sortir, c'est mieux. Même si, effectivement, comme un de les interviewés le précisait, esthétiquement, il y a quand même un cadre à la rive gauche qui est quand même incroyable. Là, le quartier où on est, à la Sorbonne, c'est quand même pas mal du tout.
Oui, c'est vrai que... on va dire que ça peut. Après, ça peut avoir un côté un peu muséal, du coup, la rive gauche. C'est vrai que c'est là où moi j'emmène mes proches quand ils me rendent visite à la capitale, très facilement. Eh bien, oui, Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même quelque chose qui est beau, qui correspond à l'image d'Épinal que l'on peut se faire de la capitale. Quand, à côté de ça, bah, que ce soit la rue de Turbigot, Réaumur-Sébastopol ou les alentours de Châtelet, bon, c'est moins.
Moins glamour.
Un peu moins glamour, quoi. Moins Emily in Paris.
C'est ça. C'est le nouveau curseur. Est-ce que c'est Emily in Paris ou pas?
Bon, un débat, du coup, qu'on aura toujours du mal à trancher. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on s'écoute un groupe suédois, Junip, qui chante en portugais, Oba la même Eya, dans un film d'espion qui se passe en Russie, le 4e pouvoir. Sur Radio Campus Paris, on parle de la vie de la Sorbonne, de l'actualité de ses étudiants. Vous écoutez tout de suite, c'était Junip, Oba, Bem, Eya sur Radio Sorbonne Université. Et maintenant, nous avons un invité avec nous.
Le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Clara, ton premier invité ce soir est un enseignant de Sorbonne Université.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Frédéric Billier, professeur de musicologie médiévale à la Sorbonne et vice-doyen chargé de la vie étudiante à la Faculté des Lettres. Bonsoir Frédéric Billier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc pour commencer, racontez-nous en quoi consiste le rôle de vice-doyen chargé de la vie étudiante.
Alors donc c'est un portefeuille autour de la doyenne, Madame Béatrice Pérez, qui est la responsable de cette faculté, hein, qui a été élue, et qui a constitué autour d'elle un ensemble de vice-doyens et de vice-doyennes. Et moi-même, j'ai un portefeuille assez large, puisque j'ai à la fois la vie étudiante, les lieux de vie et le patrimoine, et le développement durable. Donc, vous voyez, ce sont des sujets très, très importants. Alors, la vie étudiante, j'avais une certaine expérience, puisque j'avais déjà été vice-président quand c'était Paris-Sorbonne, puis vice-doyen avec le doyen Alain Talon quand c'était le début de la fusion Sorbonne-Université. Et donc, je pense que le secteur de la vie étudiante est en bonne place et qu'on a pu affronter, je pense, avec tous nos efforts, la crise Covid notamment, et tous les problèmes que ça a pu causer.
Oui, justement, je voulais vous parler par rapport à la crise Covid. Entre celle-ci puis l'inflation, on a pu voir que les conditions de vie des étudiants se sont encore plus dégradées ces derniers temps. On a, entre autres, des logements qui sont hors de prix, avec une forte précarité alimentaire. D'ailleurs, on a réalisé le mois dernier, pour Cours d'honneur, un reportage avec l'association Linky, où on a vu de nombreux étudiants affluer pour venir chercher leur course alimentaire. Et donc, ce constat me mène à la question suivante: par quel bout prenez-vous ces difficultés pour remédier à la précarité étudiante?
Alors, en fait, je partage votre constat. C'est une situation très grave, hein. Donc, c'était une situation qui n'était pas très facile sur le plan économique. Mais alors, en plus, la crise Covid, tout ce qui s'est passé avec l'éloignement, parfois les difficultés d'avoir des équipements informatiques, d'avoir des connexions de bonne qualité. Donc, on fait ce qu'on peut. Je pense que le service de la vie étudiante de la Faculté des Lettres, qui est rue Champollion, essaye de faire au mieux. On a installé un fil jaune, c'est un numéro de téléphone gratuit qui a permis de répondre aux appels de détresse le plus possible, notamment quand les bureaux et les secrétariats n'étaient pas toujours accessibles. Mais vous mettez le doigt sur deux choses très très importantes. D'abord, il y a le problème économique, notamment les logements. Alors ça, les logements à Paris, c'est très très compliqué. On fait ce qu'on peut, on essaye de trouver du logement solidaire, du logement intergénérationnel. Oui. On a fait une plateforme, mais c'est vraiment pas suffisant. On fait tout ce qu'on peut.
Et les CROUS sont souvent saturés aussi.
Oui, et nous-mêmes, on n'a même pas de possibilité d'attribuer des logements d'urgence, parce que même avec la Croix-Rouge, tout est saturé. Et puis en plus, on a eu aussi la crise ukrainienne, qui a fait qu'on a dû aussi accueillir de nombreux réfugiés. Donc, de ce point de vue-là, les logements, j'avoue qu'en région parisienne, c'est très, très compliqué. Du point de vue des aides d'urgence économique, on fait ce qu'on peut, mais on distribue quand même un grand nombre d'aides sociales. Et on a instauré le Welcome Pack numérique, qui permet de donner à des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas les moyens, immédiatement un ordinateur et puis des connexions Internet avec des bons d'achat qu'on a négociés avec des sociétés d'informatique.
D'accord, très bien. Et donc, toutes ces aides, on peut y accéder, on peut les connaître en allant sur l'ENT, par exemple, de la Sorbonne. Parce que souvent, les étudiants ne savent pas par où passer pour se renseigner. On est un peu perdu.
Oui, c'est vrai que la communication, c'est toujours difficile. On a fait tout ce qu'on a pu pour mettre, effectivement, déjà ce numéro de téléphone. Il y a un QR code aussi qui permet de voir toutes les aides sociales en un clic, en fait.
D'accord.
Il y a bien sûr l'ENT. Et puis, il y a des relais sur les centres à l'extérieur de notre quartier latin, notamment Malesherbes, Clignancourt, etc., où il y a des kiosques de la vie étudiante. Mais je crois que le système qui fonctionne le mieux, c'est quand même le parrainage qu'on a installé. Donc les étudiants de L2 et de L3, d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel, il y a toujours des places possibles. Et créer un binôme, il y a tout un système qui est fait par les étudiants, ils créent des binômes et ils aident des étudiants, par exemple de L1, qui ne connaissent pas tous les services et tout ce qu'on peut offrir, hein, notamment aussi les aides psychologiques. Hein, on a des aides psychologiques, on a beaucoup de choses. Vous avez raison, ce n'est pas très connu, donc c'est bien que je puisse en parler ce soir. Ouais. Et je fais un appel, il y a des aides pour les étudiants aussi handicapés, il y a des preneurs de notes pour ceux qui sont, par exemple, hospitalisés ou en maladie. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs qui sont décrits dans l'ENT. Et moi, je fais toujours un appel aux bonnes volontés parce que, notamment pendant la crise Covid, on a vu une mobilisation étudiante extraordinaire pour distribuer des repas, pour aider les étudiants et les étudiantes. Oui. Donc, il y a de la ressource. Après, effectivement, il faut être organisé et pouvoir communiquer avec tout le monde.
Et d'ailleurs, ce que vous dites, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de commentateurs qui estiment que la jeunesse est dépolitisée, apathique, individualiste. En fait, il n'y aurait plus vraiment d'engagement étudiant. Mais vous, quel est votre ressenti à ce sujet en voyant l'engagement associatif à la Sorbonne? Quelles conclusions vous pouvez tirer?
Alors moi, je dirais que la vie associative, elle est quand même très dynamique dans le milieu étudiant. Enfin, moi, ça fait des années que je suis maintenant un vieux professeur, donc ça fait des années que je vois beaucoup de choses. On a le fonds pour les initiatives, on aide beaucoup, aussi les initiatives étudiantes, donc on en voit passer beaucoup. Je dois reconnaître qu'avec la crise Covid, il y a eu un petit peu un ralentissement, ça c'est vrai. Donc je ne sais pas si le commentateur parle de ça. Mais sinon, moi, je ne suis pas du tout pessimiste sur la manière dont les étudiants prennent en main leurs projets, des projets collectifs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées. On ne peut pas tout financer, mais en tout cas, on les aide beaucoup. Et là, j'invite les commentateurs à voir un peu sur nos sites toutes les présentations d'associations. Il y en a beaucoup chez nous en fac des lettres, mais aussi en fac des sciences et même en médecine, hein, qui font beaucoup de choses.
D'accord. Parce qu'en fait, quand je parlais de commentateurs, c'est plus généralement voilà, des journalistes à la télé, des éditorialistes, voilà, dès qu'il y a un peu des mouvements étudiants ou quoi. Bon. C'est vrai que c'est un peu une pensée qui circule depuis quelques années, et je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous, qui êtes vraiment au cœur, finalement, de l'engagement étudiant. Donc.
Et puis de toute façon, les mouvements étudiants et politiques, il y en a quand même régulièrement.
Il y en a toujours.
On ne peut pas dire non plus que la jeunesse n'est pas du tout dans le mouvement de revendication, de lutte ou de résistance. Hein. On a parfois dû fermer des centres. Bon, je dois dire qu'à Sorbonne Université, il y a des mouvements d'humeur qui sont assez forts, mais en général, c'est assez respectueux quand même du matériel, etc. C'est pas le saccage total des centres, etc., comme on a pu voir dans certains lieux. Donc, je pense que notre communauté, elle respecte assez bien l'outil de travail, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de finances pour pouvoir tout réparer. Mais il y a quand même des moments où, voilà, il y a eu des blocages pour les examens, des blocages pour... Voilà, je pense que tout le monde, personne n'ignore ça. Donc, je pense que la jeunesse, elle se mobilise, il n'y a pas de problème.
Très bien. Et enfin, avant-dernière question, je voulais vous demander... là, on change de sujet, on passe plutôt... On s'intéresse plutôt à votre domaine d'études. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a conduit, puisqu'on rappelle que vous êtes chercheur en musique médiévale du nord de la France, qu'est-ce qui vous a conduit à vous diriger vers cette trajectoire de recherche?
Alors en fait, je me suis inscrit dans cette université en musicologie, donc en licence de musicologie, et en troisième année de licence, il y avait un cours sur la musique médiévale qui m'intéressait. Et à partir de là, il y avait vraiment, pour moi, une voie toute tracée. Donc, j'ai fait mon master. À l'époque, c'était la maîtrise, DEA, puis le doctorat. D'accord. Dans ce domaine-là. Et maintenant, je m'intéresse à un sujet qui je trouve très, très intéressant, qui est la représentation de la musique dans les formes d'art, les enluminures, les sculptures, etc. Et donc, avec toute une équipe de recherche, on essaye de retrouver les pratiques musicales du Moyen-Âge, faire reconstruire les instruments avec les luthiers, travailler avec les interprètes. Et donc, on cherche beaucoup toutes ces images qui arrivent par milliers avec le système de numérisation de toutes les sources. Et on a même des étudiants en doctorat qui travaillent avec le Centre d'intelligence artificielle pour repérer les formes de pratiques musicales dans les manuscrits. Et voire même sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui partagent les images sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on est à la pointe. Ça s'appelle Musiconis. C'est une base de données qu'on a créée. D'accord. À Sorbonne Université pour voir les pratiques de la musique médiévale.
D'accord, très bien. Et enfin, que représente la Sorbonne pour vous?
Ah ben pour moi, c'est le lieu où j'ai fait mes études. Ensuite, je suis parti en Normandie quand j'étais maître de conférence. Je suis revenu comme professeur. C'est un lieu que j'aime beaucoup, on rencontre des personnes extraordinaires. C'est un lieu d'histoire aussi. Moi qui suis un médiéviste, évidemment, quand je rentre dans la cour d'honneur, je me souviens qu'en dessous, il y avait, j'allais dire, le premier Crous de Robert de Sorbon, qui, pour les étudiants pauvres, avait créé la chapelle, la bibliothèque, etc. Et je suis toujours une certaine émotion. J'y rentre jamais sans me souvenir de toutes ces personnes qui ont pu construire cette université, physiquement et intellectuellement. Et donc, je suis toujours très, très heureux d'être dans cette université et
oui,
d'y participer.
C'est vrai que ça fait toujours quelque chose quand on rentre, qu'on voit la chapelle, les œuvres, etc.
Oui, oui,
je suis d'accord avec vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir.
Merci, c'est un plaisir partagé. Et puis peut-être une dernière chose, c'est qu'on n'a pas parlé du développement durable, mais c'est quelque chose qui commence avec une grande aventure et il y a aussi une forte mobilisation des étudiants et donc on y travaille ardemment.
D'accord, très bien. Voilà.
Merci Frédéric Billier, professeur de musicologie médiévale à la Sorbonne, vice-doyen chargé de la vie étudiante, d'être venu dans Cours d'honneur. Vous le savez, la période des partiels du premier semestre est définitivement terminée pour tous les étudiants de Sorbonne Université. Est-ce que tout le monde a bachoté de la même manière ? Pas sûr, la triche, les pompes, les antisèches ont encore de beaux jours devant eux. Si l'on en croit les étudiants que l'on a rencontrés en sortie d'examen dans Cours d'honneur, c'est le sujet de notre reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Des histoires de triche, tout le monde, ou presque, en a une en souvenir, nous raconte Alice, jeune doctorante à la Sorbonne.
J'avais une traduction de latin, j'étais extrêmement nulle en latin. Du coup, j'ai emmené l'exemplaire du livre de latin avec moi. Et j'ai recopié la traduction en français du livre, mais intelligemment, en traduisant par-ci, par-là. Sauf que toute ma rangée a voulu tricher avec moi. Du coup, j'ai passé le livre aux gens à côté de moi, ce qui fait qu'on a eu tous entre 15 et 19. Sur une rangée, et en fait on a été tués parce que une des personnes a rajouté une phrase dans la traduction qui avait été rajoutée par le traducteur pour que ça soit plus facile à comprendre, mais qui n'existait pas dans le texte initial en latin.
Donc vous vous êtes fait prendre?
On s'est tous fait prendre, ouais.
Et les techniques peuvent varier selon les profils. Océane et Catel, désormais en master, se rappellent des incontournables.
Le truc classique, c'est lever sa feuille pour la personne de derrière. Moi, en fait, j'ai toujours été celle qui aide les gens. Donc moi, j'étais un peu... Je m'en fiche. Non, mais la technique, l'antisèche sous la règle, mais... Et après, vu des gens tricher, pas dans le supérieur.
C'était en langue, ouais, j'étais pas très fort en allemand, en anglais. Et donc j'avais tendance à regarder un peu sur mes voisins, j'avais un peu du mal à m'en empêcher.
Alors la triche, justifiée ou moralement répréhensible, chacun place la frontière là où ça l'arrange finalement.
Pas vu, pas pris.
C'est bien réussi, en vrai, bah, s'il s'en sort sans que personne s'en rende compte, bah... Écoute, c'est qu'il a bien géré. Si, je trouve que c'est quand même un petit peu condamnable de tricher. Mais c'est, en fait, ça démontre une forme d'intelligence, mais je le condamne quand même. Mais je souligne la capacité créative de certaines personnes et leur capacité d'adaptation. Après, moralement, je trouve ça quand même un peu répréhensible.
Moralement, je suis pas totalement dans le pas vu, pas pris, parce que ça peut être une vraie connerie. Mais en revanche, c'est pour ça que moi je l'avais fait que en prépa, des trucs où ça, finalement, c'est à force de faire des antisèches, on peut aussi apprendre des choses et on finit par les lâcher. Non mais vraiment, en plus, j'ai plusieurs potes qui m'ont dit ça. Ah bah, à force de faire des antisèches, j'ai fini par apprendre mon cours et finalement, j'en avais pas besoin. Ça me prenait plus de temps et c'était plus compliqué d'aller chercher les antisèches que de me souvenir de ce que j'avais marqué.
Rappelons que la fraude aux examens est un délit pénalement répréhensible. On risque jusqu'à 9000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement et on peut être interdit de participer à un concours national pendant 5 ans.
Vous êtes prévenus. On vous laisse un instant sur Radio Campus Paris avec un morceau issu de Starmania. Quand on n'a plus rien à perdre, Daniel Balavoine, France Gall dans l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, que je ne peux vous conseiller d'aller voir la nouvelle interprétation excellente de Thomas Jolie qui se déroule en ce moment. C'est à la scène musicale, il y aura même des reprises qui seront faites en fin 2023. Voilà, quand on n'a plus rien à perdre.
Plus rien à perdre.
désespérément libre. On nous prend pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand on n'a plus rien à perdre, quand on a.
Daniel Balavoine, France Gall et Starmania sur Radio Sorbonne Université. Il est 20h, passé de 34 minutes. On laisse place maintenant à notre deuxième invité.
Oui, oui, la petite instant, voulez-vous voir
A ? Il faut trouver la voie.
Clara, Abel d'ailleurs t'a rejoint pour notre deuxième invité.
Oui Thomas, notre deuxième invité est maître de conférence en histoire moderne, spécialiste de la généalogie au Royaume-Uni. Stéphane Jetto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste donc de la généalogie au Royaume-Uni. Vous allez publier prochainement un livre à Oxford UP sur la généalogie dans les îles britanniques au XVIIIe siècle. Et donc pour commencer, je voulais vous demander... Comment les familles ont-elles changé leur façon de raconter leurs origines au cours des siècles ?
Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question et de m'avoir invité. Donc, je m'intéresse à ce sujet qui est aussi très contemporain, dans la mesure où depuis deux décennies maintenant, on a des familles qui utilisent les bases de données génétiques, l'ADN, pour essayer de trouver des ancêtres. Et donc, c'est un mouvement très important qui s'est développé récemment. Et j'ai cherché un peu les origines de cette curiosité ancestrale. Et en commençant évidemment par l'époque médiévale, il y a eu beaucoup de choses là-dessus, avec Georges Duby, sur la manière dont les grandes familles incarnaient leur passé à travers des armoiries, à travers des monuments funéraires. Et il y avait peu de travaux sur cette période intermédiaire du XVIIe, XVIIIe siècle. Et j'essayais de voir quelles étaient les nouvelles formes artistiques, culturelles que prenait cette curiosité des ancêtres. Et donc j'ai pris l'Angleterre, car très tôt, ce pays a développé des guides de famille qui ensuite ont été copiés en Europe continentale. Et certains sont très connus, comme le Who is Who, ou encore des guides comme le Burke, le Debrett. Et ces guides très très originaux pour l'époque font une sorte de synthèse à la fois des familles proches, la parenté, les cousins, les oncles, les tantes, mais aussi remontent en arrière pour essayer de situer dans le passé des grands ancêtres. Et donc il m'a semblé que c'était intéressant de comprendre cette transition entre des formes plus locales, plus matérielles, de la culture ancestrale vers des formes plus urbaines où on peut restituer comme ça, identifier des familles qui migrent dans les îles britanniques ou dans les colonies ou encore sur le continent. Donc c'est à partir de cette démarche que j'ai travaillé sur ce sujet.
Très bien. Et d'ailleurs, à quel point l'évolution de la société a-t-elle influencé le discours sur la généalogie ?
Alors ce discours a été vraiment fortement renouvelé. On peut dire que la généalogie, c'est une pulsion qui est presque intemporelle. Hein, on peut trouver des traces à l'époque moderne, chez les Grecs, dans la Bible. Il y a toujours cette curiosité de situer des familles, des individus dans un passé. Mais pour chaque époque, il y a des formes très particulières. Et pour mon époque, ce qui m'intéresse, c'est de voir que les familles ne sont plus connues uniquement par des voisins, puisqu'elles circulent, et elles ont besoin d'être identifiées plus facilement. Et donc, les critères sont alors nouveaux. Il faut privilégier la lecture rapide pour pouvoir croiser quelqu'un dans la rue et pouvoir l'identifier. Il faut donc avoir des petits manuels qu'on met dans sa poche, qu'on peut regarder en passant. Donc on privilégie des tableaux, des listes, aux dépens des gros volumes qui existaient auparavant, dans lesquels les familles mettaient leur mémoire.
Oui, parce que ça anticipe ma question suivante. Justement, je me demandais à quel point le discours des origines familiales permet d'asseoir une notoriété finalement.
Oui, alors effectivement, le discours des ancêtres permet d'établir donc des valeurs nobiliaires, l'idée d'une ancienneté dans des domaines, l'idée d'enracinement. Donc c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est encore mieux d'avoir un pédigré, d'avoir une assise territoriale ancienne. Car ça permet de montrer qu'on a joué un rôle social, local, et on a une assise politique autant que financière. L'autre intérêt de ce discours des ancêtres, c'est de répondre à des besoins plus pratiques, c'est-à-dire de chercher des sources de patronage, essayer de se rapprocher de familles puissantes. Donc on a besoin de parler aisément de leur parenté, de montrer qu'on les connaît. D'autres usages qui se développent à cette époque sont assez intéressants, assez originaux. C'est le cas dans les colonies pour les esclaves qui veulent notamment être libérés et qui cherchent à montrer que des parents, des proches ont été eux-mêmes libérés. Donc on a en fait une infinité d'usages de ces manuels que l'on retrouve aussi bien dans les romans que dans les gazettes.
Et donc vous qui connaissez bien l'Angleterre du XVIIIe siècle, est-ce que c'est standard, enfin c'est... ce discours sur la généalogie dont vous parlez, c'est aussi appliqué à la famille royale et aux dynasties royales qui sont succédées dans l'Angleterre.
Alors, tout à fait. L'usage aussi très, très courant de ces généalogies consiste à identifier les principaux membres de la famille royale, les anniversaires, les naissances, qui scandent le quotidien en fait, des contemporains. Il faut savoir que la moindre naissance, le baptême, les décès, comme de nos jours, marquent les esprits et la vie des familles royales constitue une manière de s'inscrire dans le temps pour toute la population. Donc il est très important de les connaître, de les identifier, et bien entendu, parfois, la vie de ces familles, avec des scandales, avec des histoires plus ou moins sombres, suscite aussi une critique sociale, une critique des dynasties. Donc les dynasties et les généalogies sont à la fois utilisées pour valoriser l'ordre social, mais parfois comme arme pour critiquer ou pour détourner de manière subversive ces histoires familiales.
Allez, petite question par rapport à l'actualité. Harry et Meghan, l'ouvrage de l'enfant terrible de la couronne britannique, met-il à mal cette institution ou au contraire, est-ce que cela donne un coup de vernis sur une institution défraîchie, dépassée ?
Alors, c'est une question évidemment difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'appétit aux États-Unis ou en Europe pour les problèmes de la famille royale actuelle. En Angleterre, il y a une sorte de pudeur. On essaye quelque part de ne pas trop répondre à ce genre de questions. Ce qu'il est sûr, c'est que les problèmes de la famille royale, comme les moments de gloire, dans une certaine manière, soutient cette institution. Ce n'est pas parce que il y a eu des crises au temps de Diana ou le prince, le frère du roi, hein, qui est impliqué quand même dans des scandales sexuels assez graves. Ces scandales ne sont pas forcément le signe d'une fin ou d'un appauvrissement de la fonction symbolique de la monarchie. Ils nourrissent une curiosité qui peut servir. Cette question, on peut répondre de différentes manières. Si vous êtes républicain, vous pouvez avoir une curiosité simplement intellectuelle ou simplement de célébrité. Si vous êtes anglais, cette question est beaucoup plus difficile puisqu'elle montre que la monarchie elle-même est fragile et les Anglais ont été les premiers d'ailleurs en tuant leur monarque, on est royaliste un jour et on peut très bien abandonner cet attachement le lendemain. Donc il faut faire attention à ne pas inscrire la monarchie britannique dans une sorte de format temporel. Elle a une histoire et il est trop tôt pour dire si on se dirige vers un affaiblissement de cette institution. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'une reine est beaucoup plus à même de porter un idéal monarchique qu'un homme. Et il est vrai que pour le prince Charles, je veux dire Charles III, il est âgé, il a un passé assez difficile et la charge dynastique est beaucoup plus faible que pour sa mère.
Très bien. Et dernière question, une tradition que l'on pose à tous nos invités. la fameuse « Que représente la Sorbonne pour vous ?»
Alors, c'est une question historique. Longtemps, on a opposé Paris 1, Paris 4. C'était une Sorbonne divisée. Il était assez usuel à l'époque de départ en retraite qu'on évoque ces souvenirs de mai 68 et la division où il fallait prendre parti. Et il semble que... On va vers une autre identité, hein, une identité plus mouvante qui dépasse un peu ces clivages politiques. Et je suis très, très impressionné par la très grande capacité de reformulation, de renouvellement de cette institution avec des nouvelles générations d'étudiants, avec aussi une ouverture internationale, une ouverture pluridisciplinaire. Et je suis ravi de faire partie de cette aventure.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci
Gitto.
Beaucoup.
Merci Clara et Abel pour cette interview. Merci Stéphane Gitto. Interview bien sûr à retrouver en replay sur le site de Radio Campus Paris. Cours d'honneur, saison 2, épisode 5. Allez, on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
À l'aventure, après avoir voyagé entre les rayons exotiques du Crous Champollion, Sixtine nous emmène cette fois-ci dans un endroit bien plus chaotique et mouvementé, l'aéroport, de l'enregistrement à l'atterrissage. Vous allez plonger dans les foules impatientes avant d'entendre les réacteurs de l'A380 gronder. Alors, expérience pénible ou excitante, c'est à vous de trancher.
Aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 décembre, valise en main. Quoi de mieux que de décrire un aéroport pour une carte postale sonore ? Vous reconnaissez tous ce bruit des valises qui roulent ? Ça annonce le grand départ. On va aller à l'aéroport de Genève et on va vous faire vivre cette expérience avec nous. Environ pour genre une heure de route à peu près avant d'arriver à l'aéroport. Au Kizenpai, on arrive à l'aéroport. Un bisou et on s'envole. On a affiché 15h et donc là maintenant il faut qu'on trouve les bonnes portes. Donc 62-69, c'est là où il y a le plus de monde. Et bah c'est parti, on va faire la queue hein. Prenons notre mal en patience. Je crois qu'en fait, l'aéroport, c'est surtout ça, attendre. Moi, j'ai toujours été choquée par les gens qui avaient genre énormément de valises sur leur...
Si tu vois une famille émirati avec genre 15 personnes, tu vas être choquée du nombre
de cargos avec plein de valises.
Une montagne de bagages. Il y a 5 heures de plus que maintenant.
C'est un retour vers le futur, en fait. Let's go.
Le soleil se couche bientôt.
Il y a pas mal de gens. Et...
des gens aussi.
Par rapport à la taille de l'aéroport, il est vraiment fréquenté. C'est un minuscule en fait.
Lentement, doucement, mais sûrement.
Surtout qu'à Noël, il y a ce genre de...
ce genre de valise.
Enregistré. Et vous pesez lourd, vous ? Ça t'a... c'était bouquin ?
Mais moi, non, j'ai enlevé la moitié de mes classeurs.
14 kg, c'est. Ok, bah, c'est bon, ça passe large. Les valises s'en vont. On les voit. On sort les passeports. À présenter.
Les QR codes potentiellement.
Les QR codes qui sont là pour dire qu'on est bien vacciné. Et cette fois-ci, on se dirige vers la sécurité, à savoir le moment le plus chiant quand même. On arrive encore une fois, où ça ? Dans une queue, c'est pas étonnant. Allez, faut éviter les poussettes dans la queue de sécurité, pourquoi ?
Oui, c'est le bordel, il faut sortir le bébé, il faut plier la poussette, il faut machin un truc, il y a plein de liquide, c'est un bazar. Tous les mecs en costume parce qu'ils prennent souvent l'avion, donc ça chaque.
Mais
sérieusement, ils vont beaucoup plus vite que nous.
On passe la sécurité, donc c'est-à-dire genre on met toutes les affaires dans le bac et on attend de passer dans le portique. Check, du coup, c'est bon, on a récupéré toutes les affaires et cette fois-ci, donc on est dans une espèce de hall avec plein de magasins. Il est 13h27.
On est dans un 777-300 ER.
Voilà, ça c'est le nôtre. On voit que sa porte de soute est ouverte pour faire rentrer les bagages qui arrivent maintenant d'ailleurs.
Je veux trop conduire ces trucs-là.
C'est un hélico là-bas.
Oh yes, il fait des drifts. Regarde, t'as vu Stan le chariot ? Je veux conduire ça en fait.
Vieux,
je trouve ça génial. Des chariots à vieux ?
Un chariot comme ça, mais il y a des gens pas du tout. Enfin, il y a des gens qui savent très bien marcher.
On est en quelle porte, nous ?
C'est 60.
Très bien.
Les appels. Encore des équipages. Ah ouais. Mais on dirait qu'ils font un défilé de mode.
Et dedans, il y a toutes les nationalités, hein. Asiatique, pays de l'Est, indien.
On sort le passeport pour passer la douane. Le passeport est vérifié, c'est bon. Donc cette fois-ci, on est encore dans un espace international.
Cette fois-ci, nous sommes dans une zone sans frontières. Nous sommes dans un espace international. Nous sommes apatrides. Le duty free, là, c'est le vrai duty free.
Le duty free.
Avec les cigarettes, l'alcool, donc vos souvenirs du pays que tu as traversé, plus cigarettes, alcool, les classiques du duty free.
Vous pouvez mettre le cadeau dans la destination de tout Paris.
Non.
Appartement en porte 727.
si vous voulez péter, c'est le moment, parce qu'après, merci.
Super. On entre dans l'avion.
Petit endroit pour ranger tous tes trucs. T'as des chaussons, des grands écrans.
Là, on arrive dans la classe économie.
On change de monde. Je vois que les sièges ne sont pas les mêmes.
Un peu plus de monde ici.
Beaucoup plus serré.
Petite musique sympathique aussi. Je t'annonce. L'avion est bien plein.
Il y a 10 sorties d'urgence. Ça, c'est qu'on appelle la résonance.
Décollage.
Et maintenant le frein.
Oh my god. On met les gaz. Les bébés qui pleurent. De redescendre en vue de l'atterrissage. Oula, le bal, désolé.
Il a touché.
Pilote.
Et voilà, freinage absolu.
Champagne.
On a eu droit à quelques applaudissements, c'est rare.
Oui. Qu'est-ce qu'on répond quand on dit ça à l'écoute?
À l'écoute, ça.
Bon bah voilà, on s'est envolé avec Sixteen dans sa carte postale un peu hors série, puisque pour une fois on n'est pas on n'est pas dans un lieu de la Sorbonne. Vous êtes bien dans Cours d'honneur, c'est l'heure de la revue de presse féministe.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Allez, place à la revue de presse
des féministes.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
Avec Rosalia, cette semaine dans la revue de presse féministe, on commence, Rosalia, par le retour d'un personnage pas très attendu.
Et oui, Adrien Quatennens a fait son retour à l'Assemblée mercredi 11 janvier en commission des affaires étrangères. Le député insoumis avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale le 13 décembre. LFI avait immédiatement réagi en le suspendant de ses rangs pendant 4 mois. Cette radiation temporaire l'oblige à siéger parmi les non-inscrits, explique Le Figaro. Mais l'interview télévisée donnée le lendemain par l'intéressé a provoqué un tollé, certains insoumis estimant qu'il fallait réexaminer la décision, rapporte Le Monde. Dans l'interview qu'il avait donnée, il s'était défendu en disant « Je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains ». Il affirmait donc son intention de regagner les bancs de l'Assemblée dès janvier 2023. Du côté de ses détracteurs, certains estimaient que la sanction n'était pas allée assez loin. Le 26 décembre, plus d'un millier de militants insoumis et de la NUP demandaient son exclusion de LFI dans une tribune publiée par Le Monde. Oui, le privé est politique. Aucun agresseur n'a sa place dans nos partis, nos organisations, nos institutions, dans nos hémicycles, exhortaient les signataires de cette tribune.
Cette politique, Rosalia, montre au moins que le mouvement MeToo s'est imprégné dans les consciences en France. Mais qu'en est-il de l'autre côté de l'Atlantique ?
Le hashtag MeToo ne semble avoir qu'effleuré la Guyane. Dans un article de Libération, on apprend que le rapport annuel du ministère de l'Intérieur place à nouveau la Guyane au premier rang du classement des violences sexuelles et sexistes. Pour 2021, près de 13 femmes pour 1000 habitantes de 15 à 64 ans y ont été enregistrées par la police comme victimes de violences conjugales. Plusieurs causes sont évoquées dans l'article, comme l'importance de la figure de la femme, pilier, chef de famille et forte. On pourrait croire que c'est une bonne chose, mais selon la doctorante en sociologie Lise Gillot, cela empêcherait les femmes de se percevoir comme victimes. Les associations féministes sur place poursuivent leurs efforts de sensibilisation. Composées en grande majorité de métropolitaines, elles se félicitent cependant d'attirer de plus en plus de locaux.
Et retour en métropole où les associations féministes ont subi quelques déceptions la semaine dernière au sujet de Miss France.
Si vous en doutiez encore, je peux désormais vous le dire. Oui, Miss France, c'est un vrai boulot, affirme haut et fort l'Humanité dans un article publié le 11 janvier. Jusqu'à présent, le concours était considéré comme un jeu. Il n'était donc pas soumis au droit du travail. Le contrat des participantes commençait 3 jours seulement avant l'élection, sans tenir compte du travail fourni dès les sélections régionales. Mais le 6 janvier 2023, le Conseil des Prud'hommes a reconnu l'existence d'un travail effectué par les participantes du spectacle. Il a cependant rejeté les demandes d'oser le féminisme. L'association avait attaqué le concours en octobre 2021, arguant notamment que les organisateurs du concours imposaient des clauses discriminantes aux jeunes candidates, explique Le Parisien. Parmi ces clauses, on peut citer le fait de mesurer au moins 1m70 ou d'être, je cite, « représentative de la beauté ». De leur côté, les organisateurs du concours déclarent que Miss France reste attachée à la mise en avant de toutes les femmes, peut-on lire dans Le Monde. L'association Oser le féminisme pense faire appel de la décision.
Et pour finir sur une note très locale, une ville de la banlieue parisienne se féminise.
Et oui, durant l'année 2023, Pantin s'appellera Pantine. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville sur Twitter le 2 janvier. Son but, interpeller sur l'égalité femmes-hommes. Cette initiative ne semble pas convaincre tout le monde, comme le Figaro, qui regrette une résignation au symbolique. Attendons de voir si l'ajout de ce petit E fait mouche aux oreilles des patrons qui payent moins leurs employées féminines et s'il aide les femmes à se sentir plus libres dans l'espace public.
Merci Rosalia.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Emma, tu nous dévoiles en toute subjectivité ton top 2 des meilleurs albums de 2022.
Je sais, ça, beaucoup l'ont déjà fait, mais j'ai décidé de vous dévoiler mon top des meilleurs albums de 2022. J'ai trouvé l'exercice difficile, alors j'ai fait un top 2 basé sur des critères absolument subjectifs. Voici donc ma plus belle découverte musicale et ma valeur sûre de l'année écoulée. Pour commencer, ma plus belle découverte de 2022 a été le dernier album de la rappeuse londonienne Little Sims, sorti en décembre, No Thank You. Little Sims fait un carton auprès de la critique comme du public avec son précédent album, mais cette fois-ci, elle débarque par la petite porte en annonçant son nouvel album quelques jours avant sa sortie. No Thank You est intimiste et méditatif, et comme l'indique son titre, il s'agit pour la rappeuse de dire non aux injonctions de l'industrie musicale. Dans ce disque, elle s'en prend à cette industrie qui tente d'exploiter son nom pour son propre profit. Mais la force de Little Sims, c'est aussi son flow imparable et sa narration qui m'ont convaincu dès le premier son. Entre des beats hip-hop maîtrisés, des envolées orchestrales cinématographiques à la James Bond et des chants rappelant le gospel, Little Sims se livre sur des moments d'angoisse et de frustration. Bref, No Thank You est un album puissant et pour moi, qui ne suis pas une amatrice de rap au départ, c'est une véritable claque. Knowing it's painful, we cannot be rushed. Used to seeing your name pop up, but I'll adjust. Everybody giving their opinion. But really, I should listen to my gut. No more kindness for we must I put up with that bullshit and I'll nip it in a bud. Better do the work if you ain't looked in the mirror yet. I don't wanna live my life being a silhouette. Un autre album que j'ai attendu comme une gamine ses cadeaux de Noël a marqué toute mon année 2022. Il s'agit de Skintifia du groupe post-punk irlandais Fontaines DC, ma valeur sûre. Skintifia est une véritable déclaration d'amour à l'Irlande que le quintet a désormais quitté pour Londres. L'album est en effet bourré de références à la culture irlandaise, commencé par son titre, un vieux juron gaélique lancé par les anciens. Mais il a aussi une dimension plus engagée, notamment avec le morceau I Love You, où le groupe s'en prend aux politiques qui ont malmené l'Irlande. Et même si l'on n'est pas irlandais, je trouve qu'il est facile de faire un parallèle avec son propre pays et de voir que ce qui reste finalement, c'est un grand malaise et une incertitude semblable au ressenti du groupe. Paradoxalement, cet album m'a aussi marqué parce qu'il fait partie des meilleurs souvenirs de mon année 2022, comme un vinyle rouge qui tourne en boucle sur ma platine, le passage de Fontaines DC au festival de la route du rock à Saint-Malo, ou encore des trajets en voiture avec une amie incroyable. Down in time, I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will shoot you, I'll go through you. I am Jackie down. J'espère que vous aurez envie de découvrir ou de réécouter ces artistes. En tout cas, pas de doute. 2023 sera une année tout aussi riche en pépites musicales.
Merci Emma, de belles découvertes sur Cours d'honneur pour la première émission de l'année. Allez, il est l'heure du pavé de culture.
Shut up!
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Boule, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables. Chaque mois, on vous raconte une anecdote méconnue sur l'histoire de la Sorbonne. Et à défaut de passer notre temps de travail dans des bouquins, on pouvait, à la Sorbonne, passer notre temps à regarder les étoiles. Ça, c'est une bonne idée aujourd'hui, Pauline. Tu nous fais découvrir l'Observatoire de la Sorbonne, un lieu qu'on s'est habitué à voir, mais qui reste bien mystérieux.
J'ai un peu la tête dans les nuages. Les partiels, pour ma part, sont terminés. Et quand j'ai tenté de trouver un sujet pour cette chronique, j'ai pensé aux paillettes que la Sorbonne mettait dans ma vie d'étudiante.
Sauf qu'en cette période d'examen, l'ambiance générale n'est pas à la fête et je reste chez moi à prendre un thé et des gâteaux avec mon plaid. J'ai donc cherché à savoir si la Sorbonne, elle, était dans un meilleur mood que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a la tête dans les étoiles tout le temps. Et cela grâce à sa magnifique tour d'astronomie qui fut l'ancien observatoire des étudiants de la Sorbonne. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait faire un tour du côté de la tour d'astronomie à la recherche des secrets perdus de ce bâtiment. La tour d'astronomie est l'ancien observatoire des étudiants de la Sorbonne. Classée monument historique, elle a été construite au XIXe siècle, de 1885 à 1901, lors de la reconstruction de la Sorbonne par la Troisième République, et utilisée entre 1901 et 1910 pour les travaux pratiques des étudiants. Pour y accéder, on doit traverser la cour d'honneur, où sont visibles un cadran solaire et l'ancienne chapelle érigée par Richelieu. Puis, on doit emprunter de nombreux escaliers. En comparaison, monter les étages des escaliers à Clignancourt deviendrait presque facile. Après cette ascension de 39 mètres qui vous a permis de maîtriser votre souffle, comme Tanjiro dans Demon Slayer, vous arrivez aux deux derniers étages de la tour d'astronomie. Mais malheureusement, vous apprenez que le quatrième et cinquième étage sont désormais inaccessibles aux étudiants aujourd'hui, car des gens travaillent ici. Certains même habitent dans les appartements de la tour. À ce moment-là, vous trouvez ça fort dommage et je suis bien d'accord avec vous. Franchement, ce serait vraiment très cool de venir ici sur son temps libre lorsqu'on a cours en Sorbonne. Mais puisqu'on peut avoir la tête dans les étoiles, j'imagine arriver au cinquième étage de la tour où se dérobe une petite porte sur le côté. En empruntant ce passage presque dissimulé, on accède à une terrasse sur laquelle on a vu sur la coupole de l'ancienne chapelle, mais aussi sur la coupole de l'ancienne lunette méridienne. Et oui, la tour comporte deux coupoles. La coupole de l'ancienne lunette méridienne, qui était réservée aux travaux de mesure astronomique. On pouvait mesurer la position d'une étoile qui passe au méridien, autrement dit au moment de la nuit où celle-ci est la plus favorable à observer. Aujourd'hui, elle a été remplacée par un atelier de polissage de miroirs de télescope, organisé par la Commission des instruments de la SAF, la Société astronomique de France, atelier dans lequel les amateurs d'astronomie s'adonnent à leur passion. Quant à la coupole principale, celle située à 39 mètres au-dessus de la rue Saint-Jacques, sa lunette astronomique date de 1935 et permet d'observer la Lune, des planètes comme Jupiter et Saturne et même des galaxies. Si le ciel parisien n'est pas trop blasé et gris, il est possible d'apercevoir la galaxie d'Andromède à plus de 2 537 000 années-lumière. Mais malgré sa capacité à observer des astres lointains, cette lunette n'a jamais été utilisée pour la recherche, mais utilisée pour la formation des futurs astronomes. La raison, le mauvais temps et la pollution lumineuse qui vous font regretter les lieux là où il fait beau et où, le soir, à la nuit tombée, on a juste à lever les yeux pour voir les traînées blanches de la Voie lactée dans le ciel. Bon, après tout, la question n'est pas là. Il existe toujours une possibilité d'accéder à la tour d'astronomie. Car oui, bien que la coupole ne soit plus accessible pour nous étudiants, elle est tout de même devenue un lieu historique que l'on peut visiter. Amateurs d'astronomie ou amoureux d'histoire, je vous conseille d'aller visiter cette pépite culturelle méconnue. Des visites sont organisées par des bénévoles de la SAF, les lundis et vendredis soirs, en petits groupes restreints de 5 personnes, et lorsque la météo est favorable, des observations accompagnent la visite. Alors si ce lieu vous intrigue et que vous voulez en apprendre plus, allez visiter cet endroit enchanteur pour n'importe quelle occasion, vous aurez la tête dans les étoiles, mais surtout, n'oubliez pas de regarder la météo.
C'est la fin de Cours d'honneur, épisode 14. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci à toute l'équipe, Rosalia, Pauline, Emma, Abel, Clara, Sixtine qui nous a fait la carte postale sonore. Merci au service culturel pour son soutien. On se retrouve dans un mois d'ici là. Restez curieux, soyez fous, n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.